11h04 minutes. Bienvenue dans Trudeau Landry. Est-ce qu'on a les cas et les statistiques du jour, Colin? On perd nos bonnes
vieilles habitudes. 127 nouveaux cas, 2 décès et moins 3 dans les hospitalisations.
127, j'ai pris en note en même temps, là. Vas-y, 127.
2 décès.
Oui, 2 décès.
Et moins 3 pour les hospitalisations.
Moins 3 dans les hospitalisations. Donc, on suit clairement les tendances donc des derniers jours et des dernières semaines concernant la COVID. Vous rappelez que Dominique Ducharme, l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal, est en isolement actuellement parce qu'il y aurait eu, comment qu'on appelle ça, des irrégularités. Des irrégularités. Donc,
c'est le mot.
Il a été vacciné 2 fois. Donc, on ne sait pas trop ce qui se passe seulement quand on nous parle d'irrégularités, là. On ne sait pas trop ce que ça veut dire exactement. Il a-tu testé positif ou... Donc, on verra s'il va être derrière le banc du Canadien.
Ouais. Pas assez manger de fibre 1.
Non, c'est ça. On verra s'il va être derrière le banc du Canadien ce soir. Et on va aller tantôt retrouver à Brossard ou à Montréal. Je ne sais pas s'il est à Brossard directement, notre collègue Martin Maguire. On va parler du E3. Le E3, Nico, comment on dit ça?
E3, exactement.
Le E3.
Le Electronic Entertainment Expo.
Événement très, très suivi par l'industrie de l'électronique. C'est spécialisé.
C'est surtout jeux vidéo.
Jeux vidéo, ouais. Exactement ça, l'industrie du jeu vidéo. Et pour en parler, on va aller retrouver un chroniqueur qui est toujours fort apprécié, qui est directeur du design également chez Binox, François Tadet, qui est avec nous. Salut François!
Bonjour Jérôme et Nico.
Bon, écoute François, d'abord, raconte-nous là, comment ça se passe le E3 là, pour ceux qui sont moins familiers avec ça, surtout en temps de COVID. C'est-tu à distance? Comment ça marche? Là? Comment ça se passe le E3? Là?
Mais il faut dire qu'après avoir annulé l'an dernier l'édition à cause justement de la pandémie, la convention annuelle sur les jeux vidéo a effectué un retour, mais sous un format entièrement numérique cette année. C'était donc une succession de conférences de différents participants, environ une douzaine. Mais bon, il y avait quand même plusieurs absents. Il faut dire que depuis quelques années, le E3 était quand même sur un certain déclin en termes de popularité. Ils avaient dû ouvrir. Initialement, c'était juste pour la presse et les gens d'industrie. Éventuellement, dans les dernières années, ils ont ouvert au public pour s'assurer toujours d'avoir un bon achalandage. Et disons que l'année dernière, quand ça a été annulé, c'était pas parti pour être une grande année. Et là, cette année, ben, on a eu donc quelques conférences, notamment de Microsoft et Nintendo, qui ont probablement été les plus importantes. Okay. Mais tu sais, Sony était absent, parce que Sony préfère avoir ses propres événements depuis quelques années maintenant.
Ah oui.
Il n'y avait pas de conférence de Activision ni Electronic Arts non plus. Donc, c'était quand même intéressant parce que, faut dire, à l'origine, à quoi ça servait le E3, là, quand ça a été fondé il y a plus de 25 ans, c'était pour permettre aux gens de savoir quels vont être les jeux vidéo qui vont sortir d'ici Noël. Et là, avec cette édition-là, un peu plus limitée en termes de contenu, est-ce qu'on sait maintenant aujourd'hui quels sont tous les jeux qui vont sortir d'ici Noël? La réponse est non. Il va y avoir encore des surprises tout au long de l'année. Electronic Arts fait un événement, par exemple, en juillet, donc ils dévoileront des choses en juillet. On a Sony aussi qui fera certainement quelque chose au cours de l'été. Donc, on n'a pas le portrait complet, mais on a quand même un aperçu de ce qui s'en vient dans notre industrie.
Tu viens de nous parler, François, particulièrement d'un produit qui est très populaire, la Nintendo Switch. C'est quoi? C'est déjà la cinquième année, la Switch. Écoute, moi, mon fils s'en sert pas mal. C'était un produit très populaire. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dessus, là?
Donc, c'était effectivement un bon succès de Nintendo. On commence la cinquième année depuis quelques mois. Ça a été la conférence qui a eu la pointe de spectateurs la plus élevée du E3. Donc, on parle d'une pointe d'environ 3,1 millions de personnes qui ont voulu savoir ce que Nintendo avait proposé. Ils avaient une conférence d'environ une quarantaine de minutes qui était entièrement focus sur les produits qui vont être lancés dans les 6 prochains mois, avec quelques petites exceptions de jeux qui vont sortir en 2022. Puis la Nintendo Switch, comme tu le mentionnes, c'est qu'un gros succès. Ils sont rendus quand même à 85 millions d'unités vendues, Nintendo. Après l'échec de la Wii U, et le succès de la Wii avant, donc là, ils sont revenus, dans le fond, dans l'ère du succès. Et ils ont quand même présenté des choses intéressantes. Donc, on le sait un peu que Nintendo s'est mis sur ses franchises phares, que ce soit Mario, Pokémon, oui. Zelda. Donc, ils ont présenté des nouveaux épisodes dans la plupart de ces franchises-là. Donc, les fans de Mario, à défaut d'avoir un jeu de plateforme traditionnel, vous allez avoir dans quelques jours Mario Golf Super Rush pour les fans de golf comme toi.
Oh, OK.
Vous avez aussi une collaboration entre Ubisoft et Nintendo pour avoir un retour de Mario. C'est ce qu'on appelle un crossover en anglais, donc un mix entre Mario et les lapins crétins qui reviennent pour une deuxième fois. Mais aussi, ils ont quand même surpris. On pensait avoir des nouvelles de la franchise Metroid sur un certain produit qui était en développement depuis 3 ans, mais à la place, ils nous ont présenté un autre produit qui était aussi en développement, qui lui va sortir cette année, qui s'appelle Metroid Dread. Et on a aussi le némésis de Mario, qui est Wario, cette version un peu méchante, amusante de Mario, qui revient dans une collection de mini-jeux. D'ailleurs, ils ont présenté aussi beaucoup de collections de jeux et d'éditions remasterisées. Donc, des collections de Mario Party, par exemple. Ils ont fait une douzaine de ces jeux-là. Donc là, ils vont préparer un best-of des Mario Party. Un remaster, une réactualisation d'un Zelda qui est Skyward Sword. Donc, on va avoir quand même beaucoup de contenu d'ici la fin de l'année, en plus des jeux de Pokémon qui vont sortir à la toute fin de l'année, qui sont très attendus. Et le gros jeu qu'ils ont présenté à la toute fin de leur conférence pour dire, regardez, ça s'en vient, on progresse là-dessus, c'est le prochain épisode des aventures de Zelda, qui est le successeur de Breath of the Wild, qui était extrêmement populaire, mais c'est pas avant 2022 que ce jeu va sortir, bien entendu. Et la dernière chose que je t'ai mentionné, ça fait trois E3 consécutifs que dans les semaines avant, là, les différents analystes, ils vont de prédictions, ils entendent des rumeurs, ils disent « Ah oui, Nintendo va annoncer la Switch Pro, vous allez voir une... » Non, ça a toujours pas eu lieu encore. Ils sont toujours avec la bonne vieille Switch du lancement, ainsi qu'une version plus simplifiée qui existe, mais il n'y a pas une version actualisée de la Switch qui a été présentée cette année.
François, je dirais à ben du monde qui veut s'initier ou initier des gens qui sont pas habitués de jouer à des jeux vidéo que les Mario Party, c'est une bien belle façon d'initier quelqu'un au jeu de console à cause des différentes manières de se servir de la manette et tout ça, et de découvrir un peu aussi la Nintendo Switch.
Trouves-tu? Oui, tout à fait. C'est une compilation, tu sais, c'est une collection relativement accessible avec des mini-jeux avec des règles très simples qui généralement demandent un ou deux boutons pour comprendre chaque mini-jeu. Donc c'est un bon choix. Par contre, ça peut briser de l'amitié, hein, parce que Mario Party, c'est un jeu compétitif.
Effectivement.
Ah oui, ça arrive. Microsoft Xbox, François, tu dis que c'est leur meilleure conférence dans les 20 dernières années. Qu'est-ce qui te fait dire ça?
Écoute, ça fait 20 ans que la Microsoft existe avec la division Xbox, oui. Et ils ont toujours présenté des conférences, des fois en dents de scie certaines années, mais cette année, c'était extrêmement solide. On parle d'une conférence de près de 2 heures, okay. Au cours de laquelle ils ont mitraillé des titres qui s'en viennent. Il faut dire que depuis 3 ans, Microsoft, sa stratégie, ça a été de faire des acquisitions de développeurs de jeux vidéo de toute taille, et sa dernière acquisition, c'était Bethesda Studio. Puis Bethesda Studio, c'est quoi ça? Ben c'est les gens qui possèdent des franchises Fallout, Elder Scrolls, Doom, Wolfenstein, Dishonored, puis plusieurs studios. Et là, ben, sans surprise, ils ont annoncé, écoutez, regardez, gang, les prochains jeux de ce développeur-là, qui avant produisait des jeux pour toutes les plateformes, incluant les consoles de Sony et Nintendo, ben, ils vont être seulement sur la Xbox. Ce qui a bien sûr fâché les gens qui n'ont pas ces consoles-là, mais ça fait partie de cette guerre-là au niveau du contenu. Pourquoi on achète une console plutôt qu'une autre? Ouais. Ben, parce qu'elle a des exclusivités qui nous intéressent.
Ouais.
Et Microsoft, présentement, on ne sait pas exactement c'est quoi le succès de la Xbox X, Series X et Series S qui ont été lancés en novembre dernier. On sait que Microsoft dit que c'est le meilleur lancement de console, mais on n'a pas de chiffres pour savoir, pour le prouver, et elle est encore en retour de stock, tout comme la PS5 d'ailleurs. Okay. Donc, ils ont quand même présenté beaucoup de jeux qui s'en viennent pour, je dirais d'ici la fin de l'année. Donc, vous allez avoir, si vous êtes, mettons, un fan de Flight Simulator, qui est déjà sorti sur PC, qui est une traditionnelle franchise de simulation de vol, ben, elle va être disponible sur Xbox Series le mois prochain. Vous allez avoir Forza Horizon 5, qui est un jeu de course. Tu sais, il y a 20-25 ans, quand Gran Turismo est sorti sur la PlayStation 1, on parlait de photoréalisme à l'époque. Ben là, avec Forza Horizon 5, on s'en approche vraiment beaucoup plus, étant donné qu'ils prennent des captures extrêmement réalistes de circuits, de végétation, d'automobiles. C'était vraiment époustouflant la présentation qu'ils ont faite. Et ils ont le retour de Halo à la fin de l'année, bien entendu, qui est Halo Infinite, dont le côté multijoueur sera entièrement gratuit. Donc, pour les gens qui voudront embarquer dans cette franchise-là, c'est un autre jeu de gratuit de plus. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait intéresser beaucoup les gens. Puis ils ont présenté des jeux qui sortent pour 2022 et plus, donc des nouvelles franchises comme Starfield et Redfall qui seront exclusives. Il faut dire que le gros point que Microsoft a martelé, c'est que sur les 30 jeux qu'ils ont présentés durant cette conférence-là, ils ont dit 27 de ces jeux-là vont être sur notre service Xbox Game Pass, qui est leur service d'abonnement, leur genre de Netflix pour eux, qui a énormément de succès présentement. Et je vais dire, moi d'ailleurs, j'ai toutes les consoles, tout le temps je m'intéresse à tout ça, j'ai beaucoup plus passé de temps sur les jeux qui sont offerts sur Xbox Game Pass que, par exemple, du côté de PlayStation 5, parce qu'il y en avait une centaine. Okay. On installe, on télécharge, on a du plaisir. Ça va être vraiment une concurrence intéressante là, pour Sony dans les prochaines années, ce service-là.
François, je t'écoute parler. Tu parles encore de consoles et tout ça, lancement de consoles, lancement de jeux. Puis je te pose occasionnellement la question. Je pense que c'est pas mauvais de se la reposer de temps en temps. Ça s'en va vers où, l'industrie du jeu vidéo? Est-ce qu'on s'en va vers la disparition des consoles, vers moins de consoles? Un peu comme, tu sais, moi, j'ai plus de lecteur DVD chez nous, là. Il est dans la cave, en bas d'une boîte, là. Je sais même pas pourquoi je le garde, là. Est-ce qu'on s'approche d'un moment où on va écarter la console physique pour on va y aller juste avec une application sur le téléviseur ou l'écran? Est-ce qu'on s'en va vers ça où les gamers sont peut-être un peu trop attachés encore à l'objet, là?
Ben, si vous avez posé la question, mettons, à ceux qui croyaient en Google Stadia, qui est sorti quand même l'année dernière, je pense que Nico, je pense que tu avais même acheté un kit. Ouais. Si on n'est pas encore exactement rendu là. Donc, c'était la possibilité de jouer à des jeux sur différentes plateformes sans avoir besoin d'une console, par exemple. Donc, sur ton, justement, ça peut être téléviseur intelligent, tablette, téléphone, ordinateur. Ça n'a pas été un gros succès. Ils ont d'ailleurs fermé leur studio à Montréal de développement il y a quelques mois. Mais Microsoft et Sony ont aussi des investissements dans tout ce qui est cloud et ont des solutions qui vont faire leur bout de chemin, là. Je m'attendrais à ce que, dans les années à venir, Microsoft pousse beaucoup du côté de l'info numérique pour pouvoir permettre que les gens qui jouent à leurs jeux présentement, que ce soit sur Xbox ou PC, parce qu'ils offrent, ils supportent les deux plateformes, puissent jouer éventuellement sur leur cellulaire on the go, là, donc ça, et même sur les téléviseurs intelligents qui viennent de plus en plus avec des applications pour tester les contenus. Donc oui, je pense qu'il y a un avenir pour ça, mais les consoles, je suis pas certain qu'elles vont disparaître à court terme. On en a encore pour plusieurs années. Est-ce qu'on va se rendre à la PlayStation 9? Je sais pas. Okay. Parce que, à l'époque, là, quand Sony avait la PlayStation 1, elle a fait une publicité qui allait imaginer un futur où il allait se rendre jusqu'à PlayStation 9. Il est pas sûr. On verra.
Okay. Hey, dis-moi là, en terminant, François, comment ça va pour vous chez Binox actuellement? Y a-t-il des nouveaux projets? Qu'est-ce qui se passe présentement?
Ben, on est toujours en pleine croissance. Présentement, si vous allez sur notre site web, vous allez voir la quantité de postes ouverts qu'on a lâchés. Ça n'arrête pas. Et chaque semaine, nouveau lot d'employés depuis le début de la pandémie. On devrait franchir un peu même le cap des 400 employés. On collabore toujours à Call of Duty. On a d'ailleurs la saison 4 de Warzone, Cold War, qui a été lancée cette semaine, à laquelle on a collaboré. On a aussi des initiatives sociales intéressantes, comme on a collaboré à la mise en place d'un pôle de vaccination des entreprises de la capitale, qui est justement où le terminal de croisière du port de Québec, pour encourager les gens à aller se faire vacciner. Et on est fiers d'être finaliste du concours des FIDE de 2021 dans la catégorie service pour notre belle croissance et l'année incroyable qu'on a eue en 2020 parce qu'on a travaillé sur tous les projets d'Activision.
Bon, ben, bravo, François.
François, j'ai une question pour toi. Puisque tu parles des nombreux postes que vous avez de disponibles, est-ce que, puis j'imagine qu'à un certain niveau, oui, mais est-ce que quelqu'un qui a jamais travaillé dans l'industrie du jeu peut faire le switch? Autrement dit, un bon gestionnaire ailleurs pourrait-il devenir un bon gestionnaire d'une équipe de production de jeux?
Ben, c'est déjà arrivé. J'ai déjà vu des cas comme ça dans le passé. Je veux dire, c'est, par exemple, dans le domaine de la programmation, on a des gens qui travaillent, par exemple, pour le gouvernement, puis qui peuvent après ça venir travailler dans l'industrie du jeu vidéo. Là, je ne dis pas de quitter votre job là, en passant tout le monde. Là, je veux dire, on accepte tout le monde, mais je veux dire, ça prend quand même des connaissances puis un intérêt aussi pour le jeu vidéo. Mmh. Parce que, tu sais, je vous cacherai pas qu'on discute beaucoup de la concurrence, des différentes technologies. On est tout le temps en mouvement dans notre industrie.
Merci beaucoup, François. Toujours un plaisir.
Bienvenue.
Hi, François Tadeille, donc, de chez Binox, directeur du design chez Binox, mais également chroniqueur très apprécié quand il est question de jeux vidéo.
J'oserais dire que c'est un des top 2-3 chroniqueurs techno, jeux vidéo au Québec.
Ah, il connaît son affaire.
Des décennies. Mmh. Il est vraiment solide.
Connaît son affaire, oui. Au 25-226, pas pour rendre Jérôme jaloux. Mais l'auditeur me dit, j'ai acheté 2 billets pour voir les Pats à Houston le 10 octobre et avoir peut-être la chance de voir Anthony Auclair également.
Vous souhaitez d'avoir le droit?
J'ai pas osé rebooker de quelque chose encore. Là, tantôt, on a... Puis regarde, les voyages en avion, ça se fait, mais il y a encore le bout, là, officiellement, la quarantaine. Ça va peut-être être levé, là, parce que là on avance là, en passant sur une forme de passeport vaccinal. Je vais essayer de vous en reparler tantôt, d'ailleurs, de ça. Là, parce qu'il y a une première étape qui est en train d'être franchie là-dessus, là, sur la création d'un document qui ressemble un peu à un passeport vaccinal avec une application du gouvernement fédéral. Mais tantôt, on a annoncé que pour la frontière terrestre, on savait déjà que c'était fermé jusqu'au 21 juin, mais on a prolongé la fermeture de la frontière canado-américaine jusqu'au 21 juillet prochain. Ça a été confirmé tantôt avec différentes confirmations. Là, on se posait la question, puis on se la pose de plus en plus parce qu'il y a de la pression chez les élus américains qui disent, hey, nous autres, là, c'est parce que on en veut des touristes canadiens, là, surtout des touristes québécois sur la côte est, on aimerait ça les avoir. Mais bref, 21 juillet minimum, faudrait être patient pour voir encore la réouverture de la frontière.
Et je vais être curieux de voir si tous les vaccins sont reconnus aux États-Unis.
Ouais, il y a une question sur l'AstraZeneca.
Mais il n'y a pas une question. Ouais. Si tu veux aller voir Springsteen sur Broadway, ouais, l'AstraZeneca n'est pas reconnu.
C'est juste lui qui...
Pour l'instant, c'est juste ça, hein? Lui.
Ouais. Parce que regarde ce que les Jets ont annoncé hier, les Jets de New York, pas de preuve de vaccination, pas de test de COVID, pas de masque.
Pas de game.
Et match complet, là.
Ouais.
C'est-à-dire la foule, 100% de capacité.
C'est ça, c'est ça.
Il y a des endroits où
sans ça. OK, on va s'arrêter quelques instants. Au retour, écoute, on va aller parler avec Martin McGuire, pas juste du match, mais on veut savoir ce qui se passe avec Dominique Ducharme, l'entraîneur-chef qui a été placé en isolement ce matin.